Vous écoutez
RMC.
RMC.
We made one mistake. We have some chances. We didn't score. And after, we are not marking.
Hi everyone, I'm Willy Sagnol.
Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
I hope to score again. Thank you. Good night.
I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
RMC, l'after foot.
Karine Galli.
22h52, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. On va débriefer donc ce match de la peur. C'est Nice qui l'a gagné 4-1 face à Saint-Etienne. Donc Nice reste en Ligue 1 et Saint-Etienne va vivre une deuxième saison en Ligue 2. Et puis vous saurez tout à J-1 de PSG Arsenal. Ils sont là. Mais je ne sais pas s'ils veulent parler foot ou tennis. Daniel Riolo et Maxime Chano. Bonsoir
les
messieurs.
Amis. Salut à tous. Franchement, mes journées sont rythmées par les deux, donc on pourrait parler de n'importe quoi. En tout cas, la journée tennis a été bien plus passionnante que la journée foot.
J'ai le sentiment que c'est quand même plus tennis quand je vois ton bronzage.
C'est
quand même plus dehors.
J'ai joué au soleil et j'étais à Roland, donc j'ai fait les deux.
Bon, et Sinner, là, le coup de chaud.
Mais il supporte pas la chaleur.
C'est compliqué quand t'es joueur de tennis quand même.
Ouais, effectivement, je comprends pas trop parce que, ok, on me dit il vient des montagnes et tout. Enfin, à l'âge de 12-13 ans, il est venu au bord de la mer et il jouait dans un endroit où il fait très beau et très chaud. Je sais pas, son corps doit pas être fait pour ça, c'est bizarre.
D'accord, donc s'il fait que de l'indoor, on va être embêté quand même.
Pour le tennis, Wimbledon, il fait jamais ces chaleurs-là.
À l'US Open, il peut faire très chaud.
Ouais, mais c'est souvent le soir qu'il joue.
Alors attends, on me dit qu'il faut absolument que je prenne Edouard G. Et les problèmes de météo de Sinner ne nous intéressent pas, visiblement. On en reparlera dans quelques instants. Edouard, il faut que tu quittes vite ta position. Exactement. Les Lyonnais sont une nouvelle fois championnes de France.
Salut Daniel, salut Maxime. Effectivement, 5-0 au final, le triplé de l'Haïtienne.
Melchie Dumornay. Ah, pardon, Melchie, on savait pas que t'étais là en fait.
Par le sacre, le 19e sacre. Des Lyonnaises, donc championne de la saison régulière et championne donc au bout des playoffs. 4 finales cette année, 3 trophées, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la D1 Arkema, seule ombre au tableau. La finale manquée la semaine dernière en Ligue des Champions, donc 5-0 pour les Lyonnaises qui vont pouvoir fêter ça dans quelques secondes.
Merci beaucoup Edouard, belle soirée à toi. Donc la grande question maintenant, c'est à qui Adriano Panatta va remettre le trophée?
Surtout que c'était quasiment organisé que Panatta 50 ans après le remette à un autre Italien. La fête se fera dans ce sens-là. C'est super ouvert. Hein. C'est un Roland Garros assez incroyable.
Prends un pari.
Franchement, si Zverev passe à côté cette année alors qu'il a tout ouvert, c'est incompréhensible.
Voilà.
Ça veut dire que c'est le loser définitif.
Daniel, il y a encore deux Italiens. Il y a encore deux Italiens dans le tableau.
Non mais je peux te dire que j'adorerais que ce soit Coboli qui joue demain midi, que Berrettini. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, si Zverev qui court après depuis des années, Zverev dont on dit qu'il a cette espèce de tempérament un peu loser, à jamais réellement faire les efforts ou modifier son jeu pour aller chercher ce grand chelem, se contenter du top 5. Si là, il n'en profite pas dans ce Roland, ça veut dire qu'il n'en a jamais réellement eu envie et qu'il mérite de rester un loser à vie, quoi. Non ?
On verra. Moi, je me régale d'avance d'un Zverev Fonseca.
Moi aussi, je me régale. J'ai adoré Fonseca, qui pour moi a joué un match bascule dans sa carrière aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires dans ce Roland-Garros. Mais Zverev, c'est une opportunité magique pour lui.
En tout cas, a priori, le troisième tour, il va être tranquille pour l'Allemand. Là, c'est bientôt un deuxième set de gagner.
Zverev, s'il se dit pas c'est mon année, il y a un autre qui peut se dire ça, c'est Casper Ruud, qui a déjà joué la finale, qui, pareil, on se disait toujours, il a pas peut-être les épaules pour un grand chelem. C'est une opportunité qui est bonne pour lui, parce que c'est un très bon joueur sur terre. Mais je sais pas où il en est, il est en train de galérer là.
Il mène 5-4 au cinquième, mais pas de break.
Casper Ruud, finaliste à Rome, on rappelle, qui a été battu par Sinner, et donc qui peut aussi rêver d'un premier grand Chelem.
Ouais, qui avait fait finale là, Roland, pareil, giflé par Nadal, mais Zverev, si c'est pas son année, laisse tomber mon gars, c'est que tu veux pas quoi.
Mais c'est pas que tu veux pas, c'est que t'es peut-être pas fait pour ça et que tu tombes sur plus fort que toi.
C'est la même chose. Tu complètes ma phrase en disant t'es peut-être pas fait pour ça, il est peut-être pas
Daniel,
fait pour ça.
Pas de bêtises, bien sûr qu'il veut gagner. Et maintenant, il peut être pris par l'émotion, par
le stress.
C'est bien ce que je te dis. S'il ne profite pas du fait que les plus forts que lui, les vrais plus forts que lui ne sont pas là, ça veut dire qu'il a pas ça en lui.
Il peut tomber, il y a tellement de surprises en chelem. peut tomber sur un mec en feu, on le sait. Hein.
Ah ben bah oui.
Et là,
oui,
Fonseca, je peux te dire que
Fonseca, moi à sa place, je me dis que je peux faire, je peux casser le truc cette année. Ah,
bien sûr, bien sûr.
Donc c'est le nouveau Kuerten. Il n'y a pas eu de Brésilien qui ont gagné depuis Kuerten. On est d'accord.
Ça court pas les rues non plus, genre les Brésiliens.
Donc
ils sont plutôt au foot, ouais.
Oui, mais bon, Kuerten, magnifique, triple vainqueur de Roland-Garros.
Est-ce que tu as visité Florianopolis, Karine?
Je ne suis jamais allé à Florianopolis, malheureusement. Mais j'ai eu le bonheur d'interviewer plusieurs fois Guga, et exceptionnel. Oh. Quel chic type. Et passionné de foot aussi. Et copain avec beaucoup de joueurs du PSG à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours actuel. Mais bon, on va faire un petit after foot aussi, les garçons.
Oui, on regarde un autre Brésilien, voilà. Dante, là.
Et bien, vous savez quoi,
franchement, pour lui, c'est fort de terminer de cette façon, quand même. Imagine, il terminait en mettant le club en Ligue 2.
Mais il y a le superbe t-shirt Dante, là, évidemment.
C'est magnifique. Ah,
mais messieurs, ça se termine comme ça. Révisez vos trois points, parce qu'on a une courte pause. L'after foot n'a pas encore vraiment commencé dans quelques instants, évidemment. On va faire l'évaluation de ce Nice-Saint-Etienne. On vous rappelle que c'est bien Nice qui reste en Ligue 1. Saint-Etienne n'a pas réussi à renverser les Niçois. Une victoire 4-1 pour les Aiglons. On en parle dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Karine Galli. On est ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo et Maxime Chano. Évidemment, on a parlé tennis, mais on va se concentrer sur le foot. Nice, donc, a battu Saint-Etienne 4-1. C'était le barrage pour accéder à la Ligue 1. Les Niçois ont fait le job. Ça a été compliqué, mais tout s'est décompté en seconde période. Klos, Boudache et Wai par deux fois sont les buteurs niçois. Et David Ashvili avait égalisé sur pénalty. Messieurs, on commence avec les trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Maxime.
Alors, je vais commencer par mon premier point et l'OGC Nice, de barragiste en Ligue des Champions en début de saison, un rescapé du maintien en Ligue 1. Vraiment, Nice a vécu une saison extrêmement compliquée. Ils peuvent remercier Eli Wahi, l'homme fort, vraiment l'homme providentiel du maintien niçois, aussi bien sur l'ensemble de la saison que sur ce barrage de match retour. Maintenant, le plus dur commence pour Nice, c'est recommencer à zéro en espérant qu'ils ne vivent pas une prochaine saison comme celle-ci. Mon deuxième point, ça concerne évidemment le capitaine Dante. J'ai envie de le mettre en avant par rapport à la carrière qu'il a eue. 42 ans, bravo à lui, j'ai été dans cette situation. Mais j'avais 10 de moins, donc je sais à quel point c'est compliqué de jouer au niveau à cet âge-là. Bon, même si je trouve que sa sortie sur un coup de coude est quand même un peu triste, mais au moins il aura eu le sentiment d'avoir fait le travail bien fait. Et mon dernier point, évidemment, c'est Saint-Etienne qui n'y arrive pas. Voilà, Saint-Etienne qui, je pense, peut regretter cette fameuse défaite contre Bastia qui leur a vraiment coupé les pattes. Et quand tu vois un petit peu le contenu qu'ils ont montré sur les deux matchs, c'est mérité qu'ils restent en Ligue 2.
Là, tu m'as fait un petit tunnel quand même,
c'était un peu long, ouais, mais bon, tu sais.
Il y avait la petite sonnerie là.
Je l'ai pas entendu. J'étais trop concentré sur Saint-Etienne.
Pas loin du Mont Blanc.
Daniel, tu vas nous faire trois points concis.
Oui, moi, ce sera très synthétique. Le maintien de Nice et les adieux réussis pour Dante. Le point 2, Saint-Etienne, il va falloir clarifier le projet. Il va falloir que Tannenbaum, Gazidis nous explique réellement ce qu'ils veulent faire avec le club. Parce que même quand on regarde le match, je vois pas à quel moment sur ce barrage ils ont pu espérer quoi que ce soit, parce que l'équipe est tout simplement faible. Et le point 3, bah, c'est la finale de demain. Hein. Je pense que c'est ça qui prime dans l'actualité du foot, parce que le barrage, une fois qu'on en aura parlé 10 minutes, je pense qu'on va pouvoir ranger tout ça au tiroir.
Très bien, trois points concis. Bravo, nous serons avec Fabrice Hawkins en direct de Budapest, bien évidemment, pour vous faire vivre cette journée J-1 PSG Arsenal, et demain journée exceptionnelle pour la deuxième finale consécutive de Ligue des Champions pour les Parisiens. On rappelle donc, c'est Jonathan Clauss qui a ouvert le score à la 62e. Il y a eu un penalty très généreux pour les Stéphanois, David Ashvili qui égalise, et puis Boudache, le jeune Boudache qui était entré, qui marque, et Wai par deux fois. Wai qui avait dit qu'il voulait absolument, évidemment, aider le club qu'il avait rejoint cet hiver à rester en Ligue 1. Il a été au rendez-vous.
Il a fait ce qu'il a dit, ce pourquoi il était venu. On peut dire qu'il n'est peut-être pas fait, et ça a été des échecs à mon sens à Lens, à Marseille et à Francfort, donc il n'est peut-être pas fait pour ce genre de club-là, mais pour un club qui joue le maintien, il est l'homme fort.
Moi, je te trouve dur. Il est encore très jeune, 23 ans, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné à l'Olympique de Marseille. Là, je veux dire, il est au début de sa carrière.
À lui de prouver qu'il grandit.
Non, bien sûr.
À lui de prouver qu'il progresse. Lui, moi, je te parle là, au moment où on se parle, il me donne l'impression d'être l'homme fort d'une équipe qui joue le maintien, mais un mec qui n'arrive pas à s'imposer dans une équipe qui a de l'ambition en haut du classement.
Après, je
l'enfonce pas en disant il n'y arrivera jamais, parce qu'il a quand même quelque chose. C'est un vrai joueur d'impact. Maintenant, je trouve pas toujours qu'il fasse les bons choix ou qu'il ait la technique assez fine, mais ça reste un attaquant et de Ligue 1 et certainement pas de bas de tableau. Il peut jouer au-dessus. Il va falloir qu'il progresse dans pas mal de compartiments. En tout cas, toujours est-il que, comme tu l'as dit, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, depuis qu'il est, je pense que s'il vient pas à Nice,
Nice se maintient pas.
9 buts en 19 matchs, donc c'est des bonnes stats.
Ouais, ouais. Ah oui, non, mais pour en fait, une équipe qui joue le maintien, c'est même des très bonnes stats. C'est par lui que c'est passé, hein, parce que sinon Nice coulait à pic.
On a tellement eu l'habitude de le voir en Ligue 1 qu'on a l'impression qu'il est plus mieux, mais à seulement 23 ans, je trouve qu'il a encore une marge de progression. Là où je te rejoins, Daniel, c'est vrai que.
C'est quelque chose. Parce qu'il a quand même. Faudra faire un jour le bilan de Maurice dans les clubs où il passe. Waouh.
Là, je te rejoins, c'est par rapport.
Ah oui, là, tu sais, les gens qui ont la carte.
Non, j'ai dit là où je rejoins Daniel, c'est par rapport au profil de Wai qui convient peut-être mieux à des équipes de bas de tableau. Ça lui permet d'utiliser justement sa pointe de vitesse et la verticalité qu'il peut apporter à une équipe de bas de tableau. Il l'a montré encore une fois contre Saint-Etienne, ou est-ce que surtout sur le quatrième but, il se retrouve à prendre la défense centrale stéphanoise de vitesse. Et quand tu regardes un petit peu depuis l'arrivée de Wai, finalement, il a été très bon sur les premiers matchs. Moi, j'avais un doute, hein, parce qu'il est très peu joué quand même à Francfort. Je pense qu'il n'avait pas été titulaire depuis début novembre, quelque chose comme ça. Tu arrives à l'OGC Nice début janvier, ça veut dire que t'as pas joué pendant deux mois. J'avais un peu peur que son adaptation, même s'il connaît très bien la Liga, puisse prendre un peu de temps. Puis finalement, il a été effectif très rapidement. Et quand tu regardes un petit peu la saison de Nice sur la deuxième partie de saison, en tout cas quand Wai arrive, là où est-ce qu'ils ont commencé à perdre beaucoup de matchs, c'est surtout quand Wai s'était blessé à la cheville. Il me semble qu'il a loupé 6 ou 7 matchs. Et depuis son retour, finalement, c'est vrai que ça a un peu mieux fonctionné. Et tu le vois aussi sur les barrages. Il n'était pas là sur le match aller, ça a été catastrophique. Et le match retour, où est-ce qu'il a été présent? Voilà, il a fait le taf. Et honnêtement, c'était un deal un peu win-win entre les deux, entre le club et Wai. Tu te rends compte que ça a bien fonctionné.
Il y a une image marquante, et on l'a vu plusieurs fois, c'est quand même l'osmose, l'union entre les joueurs et Claude Puel. C'est pas le mec le plus drôle du monde. Il est très très dur, et là, il s'est retrouvé à se faire valdinguer au sol par Diop.
Ils ont réussi à resserrer les boulons sur la fin de saison.
C'est impressionnant quand même.
Malgré tout ce qui s'est passé cette année, parce que la saison, elle a quand même été catastrophique, notamment à la fin de l'automne, la début de l'hiver. Se sauver de cette façon-là, alors qu'ils avaient eu quand même sur la fin de saison le moyen de le faire avant. Bon, si Puel a réussi à resserrer autour de lui pour trouver la force de faire ça, mais moi, ce que je pense, hein, c'est vraiment parce que Saint-Etienne est faiblard. Hein. Sinon, je ne sais pas si Nice s'en sort.
Oui, mais le fait que les joueurs soient à fond derrière l'entraîneur, t'as pas été surpris, toi? Ils sont tous allés célébrer avec lui, le porter dans les airs.
Ça veut dire qu'ils ont réussi leur truc, c'est ça.
Oui,
ils ont réussi.
Oui, mais qu'il l'aime aussi, donc qu'il apprécie.
Oui, ça veut dire que, bah, d'ailleurs, probablement, l'idée, c'est qu'il reste.
Oui, c'est
ça. Ça veut dire qu'il a trouvé, la formule pour se faire aimer par son groupe.
Mais rappelle-toi, il y a quelques matchs encore, Daniel, on a vu quand même des comportements de certains joueurs niçois, on aurait pu croire l'inverse.
Écoute, si le moment venu, ils ont réussi à se remobiliser tous ensemble avec le coach, tant mieux. Mais je pense que vraiment, c'est parce que Saint-Etienne n'avait pas les qualités pour retourner ce match ou pour sortir vainqueur de ce double match. Ouais. Parce que on n'a pas vu un Nice, ok, ça fait 4-1, mais ça fait un partout jusqu'à la fin.
C'est quand après l'arbitrage est cataclysmique.
Ouais. Mais pour revenir sur Puel, évidemment que les joueurs sont contents. Ils sauvent leur peau en Ligue 1.
Oui, il y en a plein qui ne vont pas fêter avec l'entraîneur quand il marque un but. Là, ils y sont tous allés.
Oui, je l'entends. Moi, j'ai du mal à croire. Quand je te dis, quand on a eu la chance de commenter les matchs, quand j'ai vu les attitudes de certains joueurs, justement, quand j'ai vu, on avait pensé que Puel allait mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est vrai que ça a fonctionné sur les deux, trois premiers matchs quand il est arrivé au mois de janvier. Après, ça a été très, très dur. Donc, évidemment, qui célèbre avec leur entraîneur, c'est aussi parce que, je le répète, mais ils viennent de se sauver. Je pense qu'ils ont envie de passer à autre chose. Et puis voilà.
Donc, toi, t'as déjà pris dans les bras un entraîneur et tu l'as mis en l'air alors que tu avais rien avec lui.
T'as pas tous les joueurs qui ont pris Puel dans les bras. Voilà.
Bah, les buteurs, oui.
Oui, les buteurs. Après, c'est pas dit que les défenseurs, les milieux.
Et t'as Diop aussi qui est allé, tu vois, qui a pas marqué, mais qui a fait une entrée en jeu. Il l'a jeté par terre, il l'a rattrapé.
Par rapport au statut de Puel, par rapport au personnage, j'ai du mal à croire qu'il soit très très proche de ses joueurs. Bon, écoute, ça n'engage que moi. On connaît un petit peu l'affectif dans les vestiaires. Bon, écoute, on verra. Je pense que la réponse, tu l'auras si jamais il doit rester une saison supplémentaire à l'OGC Nice, que je pense qu'il serait vraiment une très très mauvaise idée au passage.
Mais c'est la tendance, en tout cas, si évidemment il n'y a pas de changement de propriétaire, etc. Parce que le flou, quand même, est important autour de l'OGC Nice. Florent, supporter niçois, est avec nous au 32-16 ce soir sur RMC. Bonsoir, Florent.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Salut, Florent.
Bon, Flo, la saison, catastrophe, mais vous êtes sauvé?
Là, de suite, il y a juste... Ouf, ça y est, c'est fait. Parce que c'était un cauchemar. On a vécu une saison cauchemardesque. Et ce qui est horrible, moi, ce que je trouvais horrible, c'est que je trouvais ça injuste qu'on descende dans le sens où on est un club qui est dans le top 10 depuis 10 ans. On fait des Coupes d'Europe, bon, même si on n'est pas terrible.
Vous êtes inscrit en Coupe d'Europe parce que vous la jouez là, vraiment.
Et tu t'es dit, c'est quand même dingue que sur une saison cata, on passe à la caisse tout de suite, quoi.
C'est incroyable. On a fait deux finales de coupe en 4 ans. On a eu des Farioli, des Favre, des...
Ouais.
Enfin, voilà. Et puis, un enchaînement de blessures, une mauvaise dynamique qui se met en route. et on se retrouve à jouer notre peau.
C'est vrai que sur les 10 dernières années, Nice était plutôt devenu pas un acteur majeur, mais un acteur qui compte dans le football français. On va dire depuis, comme t'as dit, Favre, c'est la saison 2017, là, la saison extraordinaire que vous faites. Mais derrière Nice, c'est vrai qu'on en parlait. Il y a eu des joueurs qui sont venus, des bons entraîneurs. Il y a eu des projets qui ont capoté parce que Ineos, je crois que tout le monde est déçu de leurs ambitions à Nice, mais il s'était commencé à se passer quelque chose en tout cas autour de ce club. C'est vrai que là, si vous étiez passé à la caisse ce soir, c'était violent quand même.
C'est frustrant.
Rien que sur les deux dernières années, on fait cinquième et quatrième.
Ouais, c'est vrai.
Donc là, tu te retrouves à jouer ta vie sur un match. Et puis en plus, moi, j'avais une pensée pour le président quand même, qui a fait un boulot incroyable en 15 ans. Il a fait grandir le club. Et Dante, c'est les deux mecs.
Tu parles de Jean-Pierre Rivère.
De Jean-Pierre Rivère. Et de Dante, les deux, ils partent ce soir et ils auraient laissé le club en Ligue 2. Enfin, ça aurait été pour moi super injuste. Même si c'est le sport et que cette année, on méritait vraiment rien de mieux. Donc, ça aurait été la loi.
Mais on va dire quand même que sur le barrage, vous méritez plus que Saint-Etienne, qui a quand même été assez faible, qui n'a pas l'équipe pour jouer en Ligue 1. Il y a quoi? Il y a même le trio offensif qui a l'air de sortir un petit peu du lot.
Messieurs, je vous coupe. Jean-Pierre Rivère, justement, le président qui est revenu au cours de la saison, s'exprime en zone mixte.
Ce soir, je suis fier des joueurs, de ce qu'ils ont réalisé. Moi, ça fait 15 ans que je suis président de ce club. C'est mon dernier match. J'aurais pas imaginé descendre en Ligue 2 sur le dernier match. Et ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai un peu crié, j'ai plus trop de voix, mais j'ai dit aux joueurs que c'est peut-être un des plus bons matchs sur le plan émotionnel que j'ai vécu. Voilà, donc je les ai remerciés parce que c'était un très bon match.
Que de frayeurs tout au long de la saison.
Oui, c'est une saison que j'ai fait à moitié, hein, vous le savez. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de phénomènes contraires et qui se sont multipliés les uns aux autres. Comme je disais encore aujourd'hui, un événement, mais ça va s'arrêter jamais. Peut-être ce soir, voilà, ça s'est arrêté ce soir, c'est une bonne chose. On est en Ligue 1.
Quelle est la suite désormais pour l'OGC Nice sans vous?
Oh, sans moi, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui fais l'OGC Nice. Moi, j'étais venu avec Maurice. Maurice, il est où Maurice? Je vais le faire venir avec moi. Maurice, viens avec moi, viens. Voilà, on était venu parce que le club était en difficulté. Bien avec moi, bien. On l'a fait à deux. Et c'était pas évident. Et sincèrement, j'aurais vécu ça comme un échec extrêmement profond de ne pas réussir cette mission maintien. On est allé jusqu'au bout du bout, malheureusement. J'aurais aimé qu'on puisse être maintenu bien avant la finale de Coupe de France. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas imaginé fin décembre, début janvier, quand on reprend le club, je dis que ça va être très très dur. Parce que le club était dans une situation très très compliquée, mais j'aurais jamais imaginé qu'on allait jusqu'au barrage. Bon, on y est allé, on s'en est sorti. Maintenant, je pense que pour l'avenir, moi je serai pas là, Maurice sera peut-être là, il fera comme il veut, mais je pense que c'est une année qui doit nous servir, qui doit servir au club, pour pas renouveler pas mal d'erreurs qui ont été commises, et je pense que c'est une année qu'il faut retenir. Parce qu'il faut justement restructurer ce club de façon différente. Après, est-ce qu'il y aura un nouvel investisseur ou pas? Je n'en sais rien. On verra bien la suite. Mais en tout cas, ce club mérite d'être en Ligue 1. Et mérite de vivre des saisons bien plus agréables que celles qu'ont vécu nos supporters, l'environnement du club, nos salariés. Voilà, donc c'est ce soir une grande, grande joie. Et c'est effectivement un grand soulagement qui était votre question de départ.
Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, s'est exprimé aux côtés du vice-président Maurice Cohen.
Alors, j'ai envie de dire à Jean-Pierre Rivère que je veux bien être d'accord avec ce qu'il a dit. Néanmoins, il faudrait quand même apporter des modifications dans sa réflexion. Donc oui, Nice mérite certainement beaucoup mieux que cette saison. Nice est un beau club. Alors déjà, il faudrait nommer un bon directeur sportif.
Là, ils en ont plus, ils ont fait piquer par Marseille.
Oui, enfin... Donc il va falloir en trouver un, puisque simplement il va partir et qu'il n'en a plus. Donc il faut trouver un directeur sportif. S'ils veulent changer d'entraîneur et mettre quelqu'un avec un jeu un peu plus sexy, c'est pas plus mal, parce que Nice, le public est difficile et mérite un jeu un petit peu quand même attractif.
Attendez les garçons, ils s'expriment sur Grégory Lorenzi qui devait signer à Nice.
Il y avait Marseille dans la course. Et je me trouvais à Marseille le jour de match, à l'hôtel. Et on avait convenu que le lundi matin, au plus tard... on prendrait une décision. Il m'a appelé le dimanche après-midi à l'hôtel pour me dire, écoutez, j'ai pris ma décision. J'ai fait une réunion de famille, qui était le 45 ans de mariage de ses parents. Et il m'a dit, je viens chez vous. Greg, je suis très heureux. Vous êtes sûr de votre réflexion? Parce que bon, je peux comprendre que Marseille est un club qui a une dimension différente de la nôtre. Il me dit, non, j'ai pris ma décision, j'ai qu'une parole, et donc je viens chez vous. Dans la semaine qui a suivi, on n'a pas pu signer le contrat tout de suite parce que on avait Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Et j'avais prévenu Florian Maurice à l'époque de lui dire, attendez, on va aller voir Greg Lorenzi. Je l'avais prévenu à l'avance parce qu'on fait les choses proprement chez nous. Et on a mis, je ne sais pas, une semaine pour signer le contrat. Donc on a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat a été signé. Alors j'ai toujours un problème de date, mais on va dire 15 jours après, il m'appelle, il me dit, est-ce que je peux vous voir ? Je lisais la presse, ouais. Et j'ai compris que Marseille était revenu sur le sujet. Donc il vient me voir à mon bureau, il me dit, voilà président, je suis navré, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je vais reprendre la parole. Et je choisis Marseille. Je dis, Greg, pour nous c'est pas neutre, il y a... Je vais vous rappeler, j'ai attendu de le rappeler avant qu'il y ait le maintien. Je devais le rappeler plus tôt, je ne l'ai pas fait, parce que je considère que Marseille s'exonère du contrat qu'on a signé avec lui. Or, je trouve, comme j'ai dit à Greg, j'ai dit, mais Greg, ok, je peux comprendre, il a eu la pression de Marseille, qui est revenu sur le sujet en disant, tiens, il est parti à Jusénisme. Marseille sait très bien qu'on a un contrat avec lui. Ils le savent, il n'a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Greg Lorenzi serait le directeur sportif de l'OM. Je lui ai dit, Greg, il y a un problème, c'est que, imaginez que vous fassiez un joueur. Vous faites signer, il a son contrat, et puis il hésite entre deux clubs, et puis le club dans lequel il n'a pas signé le relance. Et 15 jours après, il vient vous voir, il vous dit, bon, Greg, j'ai réfléchi, je prends l'autre club. Je ne pense pas que vous le preniez bien, d'une part, et je pense que vous lui demanderiez d'honorer son contrat. Donc ce soir, on a un contrat qui est signé. Alors évidemment, quand quelqu'un ne veut plus venir à votre club, je peux comprendre et on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir avec nous. Mais il y a un club qui s'appelle l'Olympique de Marseille qui sait que nous avons un contrat signé. S'ils ne le savent pas, je leur enverrai le contrat. Il faudra qu'on puisse discuter. Parce que ce n'est pas des pratiques qui se font. Quand vous avez quelqu'un qui a signé un contrat ailleurs, vous devez interrompre vos discussions. Je pensais très honnêtement que Marseille discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2. Qui était une possibilité du contrat, donc ça ne me choquait pas. Je crois qu'ils lui ont signé son contrat. Bah écoutez, on discutera avec Marseille.
C'est une histoire de période d'essai. Il fait sauter son contrat sur sa période d'essai.
Bah, il démissionne, mais il y a un prêt.
Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, qui règle ses comptes avec Grégory Lorenzi et avec l'Olympique de Marseille.
Ça, parce que
les problèmes commencent. Voilà. C'est-à-dire que là, il nous explique qu'en fait, il a signé deux contrats. Ouais. Un avec Nice, un avec Marseille. Mais il n'y a rien qui peut être fait dans les règles et facilement et normalement à Marseille.
On l'avait pressenti, cette histoire, à Marseille, que si l'histoire Stéphane Richard commence avec un double contrat et déjà une cagade sur le directeur sportif, lui qui à peine il met le nez dehors, c'est pour dire on va retrouver le calme, on va faire les choses bien, on va faire les choses proprement, tout va. Bon, après, dans le foot, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. On sait que Marseille, ça attire et que dès que... D'ailleurs, la seule fois où ça s'est fait dans l'autre sens et on n'avait pas trop compris, c'est pour Terem Moffi. Je sais pas si vous vous souvenez
très
de
bien.
Cette histoire où Marseille était arrivé et avait dit « On se lance avec retard, mais... » Les gens, quand ils ont le choix entre Nice et Marseille, viennent chez nous.
Ah oui, quand il était à Lorient encore.
Et Moffi était allé à Nice, à la surprise générale. Mais bon, c'est Flo Ghisolfi qui l'a fait venir là-bas. Il avait réussi le coup et il a fait venir à Nice. Là, je pense que les Marseillais ont fait et ont eu la réflexion qu'ont beaucoup entre Marseille et Nice. Tout le monde va à Marseille. Par contre, sauf que Coco, t'avais signé un contrat.
Ouais. Donc, et Marseille ça va devoir payer des millions.
Et donc, finalement, il y avait
Si Marseille, en prime, n'arrive pas à se libérer parce que Jean-Pierre Rivière, dans son bon droit, lui dit, écoutez, si vous le prenez, il va falloir lâcher l'oseille.
Après l'annonce
pour Stéphane
fait,
Richard,
ouais, c'est ça le message de Rivière, il veut des sous.
Ouais. Bah, mais tu vois, bien sûr. Et à sa place, tu ferais quoi?
Ah, non, mais c'est normal.
Et donc, Greg Lorenzi avait une clause comme quoi, si Nice descendait en Ligue 2, il était libre. Donc, je pense que
ce soir, il priait.
Je pense que ce soir.
Il était chez vous à Marseille,
la bonne mère.
Je pense que ce soir, celui qui voulait vraiment.
Poser des cierges.
Non mais c'est quand même
que
rien n'est fait.
Et que Stéphane Richard se soit à ce point avancé. Oui, il est chez nous, machin. Ouais. Limite, il a commencé à travailler.
Mais le communiqué officiel, il est tombé hier.
Il a donné une interview. Pardon, mais c'est pas respectueux. C'est pas respectueux pour Nice. C'est un premier faux pas
dans
le binôme Richard Lorenzi.
C'est pas propre. Surtout l'avoir annoncé publiquement. Je pense que tu peux faire les choses intelligemment et le faire un peu plus discrètement maintenant.
Déjà, juste, tu disais rien, Max. Tu
disais. Tu le disais pas.
Dans ce cas-là.
on va attendre l'issue du match ce soir. Et puis après, on va voir River. On dit bon.
Non, mais le communiqué officiel de l'OM est tombé hier.
Mais tu donnes pas l'interview en disant il est là. L'autre, il donne pas l'interview. Déjà, en donnant Lorenzi, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Il va falloir qu'on soit un peu astucieux dans le recrutement.
Il a le bureau.
Il a son bureau. Il a déjà les chaussons et tout dans le bureau.
Est-ce que c'est de la maladresse ou de l'incompétence? Parce que ça commence comme ça, en effet. Ouais, c'est vrai que on risque de voir encore un Olympique de Marseille 2.0.
C'est ce que tu veux, mais c'est pas propre.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi.
Et River est parfaitement dans son, dans son droit et il a la légitimité à se plaindre ce soir dans l'interview. Ce que je voulais juste lui dire, c'est que si jamais il a pas Lorenzi, il va falloir qu'il trouve un bon directeur sportif, un coach un peu plus attractif, que on avance sur la vente du club parce que Ineos n'a plus rien à cirer de l'OGC Nice, donc qu'ils le vendent, le club. Et puis, comme la situation économique du football français n'est pas bonne en ce moment, je lui rappelle qu'il est un des fautifs puisqu'il fait partie de la bande des laquais de Nasser qui ont ruiné le football français. Donc Jean-Bierre, puisque c'est lui Jean-Bierre, déjà commence par être un petit peu du côté de ceux qui veulent faire grandir le football français.
Là, il part ce soir. Hein. Oui, c'était son dernier. Donc là, alors peut-être qu'il reviendra dans 6 mois parce qu'il revient souvent à Nice. Hein, c'est déjà la troisième fois.
Mais... Il va passer la main à Maurice Cohen.
Ah oui.
On est d'accord qu'ils sont un petit peu ensemble. Ils sont bras dessus, bras dessous.
Oui, mais enfin là, il a décidé de ne plus être aux manettes. Donc,
alors qu'il dise à son ami Maurice Cohen, Maurice, ne fais pas comme moi.
Fais les bons choix.
Ne commence pas toutes tes phrases par bonjour Nasser, oui Nasser, merci Nasser.
Voilà. En tout cas, un nouveau Méli-Mélo du côté de l'Olympique de Marseille avec Jean-Pierre Rivère.
C'est une expression que je n'ai pas entendue depuis très très longtemps.
Ça, oui, mais moi j'adore les expressions désuètes, c'est pour ça. Jean-Pierre Rivère qui veut donc clairement avoir des explications du côté de l'Olympique de Marseille et du côté de Greg Lorenzi. Donc ça va être une histoire de gros sous a priori, parce que de toute façon il n'ira pas à Nice.
Oui, mais je le vois donc, mal à la falloir... dans tous les cas.
Voilà, donc il va falloir
ça
payer.
Ça va se terminer avec un chèque.
Messieurs, dans quelques instants, évidemment, on continue de parler de ce barrage et puis toutes les informations à J-1 de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h21, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Daniel Riolo. On vous rappelle que Nice se maintient en Ligue 1, 4-1 face à Saint-Etienne, la victoire niçoise. Et dans le même temps, on vient d'entendre il y a quelques secondes des explications de la part de Jean-Pierre Rivère. Vous savez que c'est le président de l'OGC Nice qui part ce soir, mais il a expliqué le problème concernant Grégory Lorenzi. Lorenzi s'était engagé avec Nice, il a signé un contrat, mais il a aussi signé un contrat avec l'OM. Si Nice était tombé en Ligue 2, ce contrat aurait été caduque, mais là, il est bien réel. Et donc, un nouveau problème va se dresser pour les Marseillais, pour Stéphane Richard et pour Greg Lorenzi. Donc, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Messieurs, est-ce que vous voulez écouter Philippe Montagnier ou pas, l'entraîneur stéphanois?
C'est intéressant.
Je peux pas savoir avant.
Ah, on t'a pas dit.
On m'a pas encore dit. Philippe Montagnier, l'entraîneur stéphanois, qui a pas réussi.
Monsieur Buquet, mais c'est une action qui rentre pas dans la VAR. C'est encore plus frustrant de prendre un but sur une touche. Après, c'est parce qu'il y a une touche qu'on est obligé de prendre un but, mais on savait que sur leur touche longue, ils étaient dangereux. Donc c'est très frustrant d'encaisser un but sur une touche qui est pas valable. Mais on n'y peut rien, on est impuissant. Après, forcément, il y a un marquage qui s'est pas fait, donc on a aussi notre part de responsabilité. Mais la première, c'est vrai que l'arbitre de touche qui était très bon.
On rappelle que l'arbitrage a été catastrophique ce soir. Et donc là, il revient sur la touche qui était en faveur des Stéphanois, qui a été pour Nice et qui a amené le but. Mais il y a quand même un attentat sur barre. Il n'a pas été expulsé ni pris un carton jaune. Après, comment ça,
Non, mais d'accord. Mais c'est, pour moi, c'est anecdotique. Ce qu'il faut dire à Philippe Montagnier, c'est mon grand, t'as juste pas l'équipe pour aller en Ligue 1, quoi. T'avais pas les atouts pour battre Nice, tout simplement. Et ta mission, au final, c'est un échec. Il est arrivé en cours de saison.
En février.
Mais ça va quand il arrive, hein. Il a eu ce passage, ce trou d'air.
Trois défaites de suite.
Après, la saison de Saint-Etienne, c'est un échec parce qu'ils ont été très longtemps dans les positions, dans les bonnes positions pour monter, pour au final terminer troisième, dépassé par Le Mans qui n'avait pas du tout prévu d'être là. Encore trois. Bon, ils ont fait une saison excellente. Mais que Le Mans, qui n'a absolument pas dans son business plan, dans le programme d'être en Ligue 1, se retrouve en Ligue 1 en passant devant Saint-Etienne, qui a changé d'entraînement au moment où il disait c'est pas dramatique, si jamais on montait pas cette année, ils ont tout le temps essayé de noyer un peu le poisson.
il va falloir quand même qu'il nous explique, et surtout il va falloir qu'il la construise, l'équipe qui va gagner la Ligue 2. Parce que là, l'équipe que j'ai vue ce soir, là, c'est pas une équipe qui était prête à jouer la Ligue 1.
Je pense qu'ils étaient pas pris, il manquait un peu d'expérience pour jouer ce genre de match. Après, le paradoxe dans cette équipe de Saint-Etienne, en règle générale, l'équipe de Ligue 2 qui joue le barrage, c'est une équipe qui a fait une belle saison. Et c'est vrai que Saint-Etienne, alors évidemment, il y a l'arrivée de Philippe Montagnier, où est-ce qu'il gagne ses 6 matchs d'affilée. Et puis, patatras, il tombe contre le Sporting Club de Bastia, qui était avant-dernier à l'époque. Et en fait, c'est significatif du début de leurs 3 matchs, où est-ce qu'ils perdent justement 9 points en 3 matchs. Et derrière, il y a le qui leur passe devant. Et donc je disais, par rapport à la situation de Saint-Etienne, quand ils arrivent sur ce barrage-là, ils arrivent en plein doute, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Et le premier match contre Rodez, où est-ce qu'ils gagnent au pénalty sur un scénario complètement rocambolesque, ne les a pas aidés à revenir un petit peu dans une dynamique positive. Et c'est vrai que quand tu vois le match aller, parce que le match aller, il était catastrophique, hein, et le match retour aujourd'hui, dans le contenu, Saint-Etienne a beaucoup beaucoup de travail pour espérer remonter dans l'élite.
On va accueillir Lambert, supporter stéphanois, qui doit être effectivement dépité ce soir avec cette deuxième saison consécutive en Ligue 2. Bonsoir Lambert.
Bonsoir, non, moi je suis pas dépité, je suis en colère parce que déjà, on a un budget de 40 millions. En Hollande, il fait descendre de Ligue 1 à Ligue 2, tu le gardes sur la descente, on le change en décembre, et cet été, on met 27 millions de recrutement. Mais c'est quoi ce projet qui meurt peur? C'est des incompétents. Ivan Gazidi, c'est un non-compétent. Ousmane, c'est un non-compétent. Jadon Reisenfeld, c'est des incompétents. Loïc Perrin, j'en parle même pas. Ça fait des années qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Et là, on est encore plus pris pour des imbéciles. Quand j'entends début de saison qu'ils disent que si on remonte pas en fin de saison, c'est pas un scandale. Mais c'est un scandale, cette saison. Cette saison, c'est un scandale. Le maintien, on le perd pas ce soir. La montée, on la perd pas ce soir. Quand on voit qu'on perd à Bastia, que les mecs, en rentrant à Bastia, ils vont tous au 18-10.
C'est une boîte de nuit, je présume, le 18-10.
Ouais, c'est une grande boîte de nuit à Saint-Etienne. C'est un scandale, cette saison. Ils nous crachent sur la gueule depuis des années.
Oui, mais vu que je ne connais pas les boîtes de nuit de Saint-Etienne, j'essayais d'être au fait de l'actualité. D'accord. Donc, tu trouves que les joueurs n'ont pas été assez pros?
Mais bien sûr, sur la saison, ils n'ont pas été assez pros. Ils n'ont aucun honneur. Il n'y a aucun honneur, il n'y a rien du tout. On recrute. Puis moi, ce qui m'énerve, c'est le recrutement. Tu recrutes pour 29 millions. Le budget total de la Ligue 2 sur les recrutements, c'est 29 500 000 euros.
Et tu t'attendais à quoi alors que Saint-Etienne fasse la même saison que l'Estac, par exemple?
Ouais, au moins qu'on fasse la même saison que l'Estac. Mais déjà, je suis désolé, mais t'es là et Saint-Etienne, t'as un projet de remontée. Ton entraîneur norvégien, c'est une pipe. Il te fait descendre en Ligue 1, en Ligue 2 l'année de la saison passée. La saison passée, on prend le carton sur carton avec lui et on le garde en Ligue 2 cette année. Mais il est où le projet qu'il meurt? Il est où?
Moi, je suis pas archi d'accord avec toi, je l'entends. Évidemment, il y a de la frustration aujourd'hui de rester en Ligue 2 et il y a énormément de choses à faire, en effet, pour revoir Saint-Etienne en Ligue 1. Mais à part ces trois défaites, parce que quand tu regardes, Saint-Etienne finit la saison avec 60 points, l'Estac avec 67 points, t'as que 7 points d'écart avec le premier. Si t'as pas cette série de 3 défaites, tu montes directement en Ligue 1.
Non, mais je suis d'accord, mais tu peux pas jouer la montée directe en Ligue 1 avec 40 millions de budget en perdant 10 matchs en Ligue 2. C'est impossible.
Ouais, après t'en as gagné 18, t'as le meilleur, t'as le deuxième meilleur bilan derrière les stacks. Mais je comprends, attention, quand t'as un budget comme Saint-Etienne, comme t'as un stade avec l'ambiance qu'il y a, avec les supporters, évidemment que vous devez être tous les jours en Ligue 1, évidemment qu'il y a énormément de travail à faire.
Toute la saison,
il y a 40. Alors là, si l'idée c'est de dire que c'est absolument anormal que Saint-Etienne soit en Ligue 2, je pense que là on est tous convaincus. Évidemment, et que je te rejoins parfaitement. Je l'ai dit 4 fois ce soir, je vais le redire pour une 5e fois. À un moment, les amis qui ont acheté, qui sont blindés d'oseille et qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent faire un truc costaud à Saint-Etienne, montrez-le nous, quoi. Parce que cette histoire-là, on l'a également eu à Nice. Hein. Ineos, c'était pareil. Hein. Ineos, il y a des phrases qui sont tombées quand même à une époque. On est là pour concurrencer le PSG. On est là pour, enfin.
Mais tu fais quoi de plus, Daniel? Regarde l'attaque que t'as en Ligue 2. Regarde la défense centrale que t'as en Ligue 2. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, soit tu prends un autre entraîneur et dans ce cas-là, en effet, il fallait nommer Montagnier plus tôt, mais.
Donc pour toi, c'est une très bonne équipe de Ligue 2 qui n'a pas réussi.
On voit des gens compétents et on voit l'oseille pour acheter les joueurs.
Mais à 3 matchs près, pour moi, t'es en Ligue 1. Alors. Les joueurs de Ligue 2, quand t'as Cardona, quand t'as David Tachvili et quand t'as Stassin, excuse-moi, enfin, tu peux pas avoir des meilleurs joueurs en Ligue 2. Enfin, si je fais la comparaison avec le Paris FC qui est monté en Ligue 1, je suis pas sûr qu'intrinsèquement le groupe était meilleur. C'est juste qu'aujourd'hui, Montagnier est arrivé trop tard. Et surtout, il y a eu peut-être un manque de professionnalisme de la part des joueurs quand il y a ces 3 défaites d'affilée. Parce que sinon, Saint-Etienne et tous les joueurs en Ligue 1 s'ils commencent pas à dormir pendant 3 matchs. Après, le contenu, attention. Le contenu, je suis d'accord avec toi. T'as droit de t'attendre à quelque chose de mieux. Mais bon, t'es en Ligue 2, tu peux pas non plus ramener des superstars en Ligue 2, il y a une réalité, hein. Donc peut-être
Lambert,
que c'est l'entraîneur, je sais pas.
Par rapport à l'entraîneur, c'est vrai que Montagnier est arrivé en février. Au début, ça s'est très bien passé. 9 matchs sans défaite et puis il y a eu cette série de 3 défaites consécutives. Est-ce que tu veux que Saint-Etienne se reconstruise avec Montagnier?
Après, pour moi, le problème de l'AS Saint-Etienne, c'est pas l'entraîneur.
Il y a donc, tu veux qu'il reste qui...
Moi, je suis pas contre l'idée, mais le problème, je pense qu'il est mal. Le mal, il est plus profond. Il y a des mecs haut placés dans le club qui n'ont rien à faire à leur poste. Après, moi, je suis désolé. On me dit Cardona, mais Cardona, c'est pas un joueur de Ligue 2. Ça fait 6 mois qu'il a pas mis un but. Stassin, ça fait 4 mois qu'il met pas un pied devant l'autre. Donc, moi, je suis désolé. Pour moi, on n'a pas une. Je préfère 100 fois Bentaleb à 3. Je préfère 100 fois des mecs qui jouent au ballon.
Mais nous, tu peux pas me dire que qualitativement parlant, Cardona et Stassin, ça joue tous les jours en Ligue 2. C'est juste qu'aujourd'hui, soit ils ont pas envie d'être là, ok, parce que le projet est peut-être pas exceptionnel, en tout cas à leurs yeux, soit t'as pas l'entraîneur qui permet justement d'avoir des joueurs qui maximalisent un maximum leur potentiel.
Merci beaucoup Lambert d'avoir été avec nous au 32-16 pour nous parler de ta déception avec donc cette saison en Ligue 2 qui se profile à nouveau deuxième saison de suite pour les Verts. Eric Salio, on est avec toi sur la terre battue. On rappelle que Zverev est tranquillement en train de gagner son match face au Français à Lice.
Il a 2-7 d'avance, Sacha Zverev, 6-4, 6-3, mais il a toujours pas fait la différence dans le troisième, puisqu'il y a 2-2-45, et puis on connaît l'adversaire de João Fonseca dans 2 jours en 8e, ce sera Casper Ruud, qui s'est sorti d'un sacré guépier face à Tommy Paul, victoire 7-5 au 5e.
Tu feras dimanche ça?
Ouais,
dimanche. Tu peux demander que ce soit le match de la night?
La night, je pense que
dimanche soir, si tu peux m'arranger ça, je veux bien. Ouais.
T'es bien avec Amélie Mauresmo?
Oui, non, un peu moins quand même. Là. Non, ça va pas très très fort, on peut pas dire ça quand même.
Ils sont pas amis, les deux, non? C'est... Il y a de la friction.
Tu vois, Eric, il y a encore des gens qui sont pas au courant, tout va bien.
Ah ben non, j'étais pas au courant.
Tout va bien. Il m'a dit il y a un mois, il m'a dit Eric, tu vas faire le buzz. Bon, moi, j'ai fait le buzz, oui, vraiment.
Bah, écoute, quoi. Visiblement, tout le monde n'est pas au courant. Donc, voilà.
Bah, je vais me renseigner. Qu'est-ce que tu as encore fait, hein, Eric?
Rien. Moi, je lui ai juste demandé d'organiser ma night dimanche. Bon, voilà, bah, c'est tout. Fonseca Rude, j'aime.
Dans quelques instants, on sera à Budapest avec Fabrice Hawkins, J-1 avant la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. A tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h34, on est ensemble sur RMC avec Daniel Riolo et Maxime Chano. On vous rappelle que Nice reste en Ligue 1. Ils ont battu Saint-Etienne 4-1 et on va tout de suite prendre la direction de Budapest. Fabrice Hawkins est sur place. Bonsoir Fabrice.
Salut Fabrice.
Salut à tous.
Et là le faucon.
Et oui Fabrice, tu vas vivre donc la Ligue des Champions de demain avec cette finale de rêve entre le PSG et Arsenal. On rappelle, deuxième finale de suite pour les Parisiens, la troisième de leur histoire. L'an dernier, ils avaient gagné la première face à l'Inter Milan, ça a été assez facile, 5-0.
Tout ça, c'est
oui, mais bon, c'est important parce que justement, en face, il y a une équipe qui ne l'a jamais gagnée, c'est Arsenal, et certains sont encore traumatisés côté supporters de cette finale perdue en 2006. Au Stade de France, pardon, c'était à quelques kilomètres de chez nous. Fabrice, raconte-nous la journée des Parisiens, parce qu'on a l'impression qu'ils sont extrêmement zen, extrêmement décontractés, alors qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire demain.
Oui, c'est vrai qu'ils sont assez décontractés et zen. Hein. C'est un peu ce que souhaite d'ailleurs Luis Enrique. C'est toujours la même chose. L'idée, c'est de pas mettre la pression, de pas arriver trop surexcité. Donc c'est vrai qu'on les sent assez détendus, sûrs de leur force. Ils sont très conquérants. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'ils veulent rentrer dans la légende, hein, puisqu'ils ont expliqué que la saison passée, ils sont rentrés dans l'histoire et qu'aujourd'hui, ils ont l'occasion de rentrer dans la légende en gagnant cette deuxième Ligue des Champions de suite. Le programme pour eux, c'était une arrivée donc à Budapest tout à l'heure aux alentours de 13h, conférence de presse où on a vu un Marquinhos et un Ousmane Dembélé vraiment très 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 à l'aise. Si on le savait pas, on ne pouvait pas imaginer que c'était une veille de finale de Ligue des Champions. Vraiment les deux, ils étaient très très détendus, souriants, avec toujours le bon mot. Et puis ensuite Luis Enrique est arrivé, lui aussi c'est un petit peu la même chose, et du Luis Enrique dans le texte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit les choses, hein, tout simplement. Il est là, il veut gagner, il se cache pas, un petit peu comme Mikel Arteta, hein, lui aussi a dit que l'idée c'était de gagner, donc on a hâte de voir ce que ça va donner demain, et puis sur le contexte aussi global dans la ville, hein, il faut le dire, les supporters d'Arsenal, ils sont vraiment en nombre, hein, c'est-à-dire que quand on arrive dans la ville, on se dit que demain il y aura certes un contingent de supporters d'Arsenal et parisiens qui a été maîtrisé par l'UEFA, mais j'espère que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'il y aura beaucoup, beaucoup de supporters d'Arsenal. En tout cas, c'est le cas dans la ville.
Ils sont venus sans billets, ouais, les Anglais, c'est un classique de faire ça. Hein.
Ouais.
Ouais, il y en a qui ont des billets, d'autres qui n'en ont pas et qui demandent si on a des bons plans. Bon, moi perso, j'en ai pas, mais effectivement, demain, non, là, autour du stade,
on aura des supporters. On a deux équipes qui sont en totale confiance. Je pense que je le dis souvent, l'apport numéro un de ce PSG qui souffrait d'un mental fébrile et qui a échoué lamentablement année à année dans les gros matchs, année après année, l'arrivée de Luis Enrique. Et d'ailleurs, il y avait un papier ce matin encore dans l'équipe au sujet de, j'oublie toujours son nom, préparateur mental, là. C'est la seule personne qui ne le quitte pas depuis toutes ces années. Il a changé d'adjoint, il a changé de pas mal de gens autour de lui, mais cette personne-là est toujours à ses côtés. Et effectivement, il dégage une confiance dans les grands événements qui est assez impressionnante. Les Parisiens, le symbole de ça, c'est Marquinhos, en fait.
C'est ce qu'on appelle aussi un peu l'expérience. Hein.
Marquinhos, on peut pas dire que l'expérience, il ne l'est pas. Mais lui, il symbolisait l'échec du PSG. C'était le gars qui semblait porter toute la loserie du monde sur ses épaules. Lui qui a connu tous les échecs parisiens. Il a été transformé au point maintenant, il dégage de la confiance. Parce qu'avant, il avait toujours cette attitude un peu à s'encourager, mais on sentait que c'était un peu fake. C'est les gars qui en rajoutent beaucoup à serrer les points, babos, machin, mais qui en fait, au moment 1, voilà, Marquinhos, c'est vraiment un joueur smecta, quoi. Là, il a réellement totalement changé, quoi. Et en face, t'avais une équipe qui elle aussi a traîné pendant très longtemps les moqueries et l'espèce d'image de loser. Les autres équipes anglaises se foutaient toujours d'eux parce que la Ligue des Champions, ils ne l'ont encore jamais gagné. Et puis le titre, ils se cassaient toujours la figure au dernier moment. Et là, ils ont débloqué ça. Et ils sont à un match d'une année historique. Parce que gagner Ligue des Champions et championnat la même année, c'est la composante principale de l'année historique. C'est ce qu'ont fait les grands clubs en Europe. Ça peut donner une espèce de match un peu étincelle avec deux équipes en pleine confiance. Après, sur ce que ça peut donner en termes de match,
tu sais jamais. C'est très difficile.
Exactement. Et j'ai même pas tellement envie de le savoir. Ouais. J'ai envie de m'asseoir, de découvrir. Tu vois.
Je suis d'accord avec toi, Daniel.
Autant le PSG Inter, on savait que l'Inter allait attendre, qu'ils allaient essayer de contrer, qu'ils sont très forts pour
ça. C'est ce que j'allais dire.
On imaginait leur schéma à 3 plus les deux couloirs, enfin plutôt modulable, mais souvent à 5 derrière. On pouvait imaginer. Là, avec Arsenal, pas trop, quoi. À part répéter, ils sont forts sur coup de pied arrêté, machin. Après, c'est assez indécis. C'est ça qui me plaît, justement.
Après, attention, parce que si tu fais la comparaison par rapport au scénario de l'année dernière contre l'Inter Milan, où en effet, tu l'avais dit, on pensait vraiment que ça allait être un match fermé avec une défense de Serie A, on les connaît. Après, ça a été complètement l'inverse. Ça a été complètement l'inverse, parce que les Parisiens sont marqués très tôt dans la partie. Vite. Voilà. Kimi qui marque, il me semble, à la 12e. Et derrière, je pense que c'est désiré.
L'Inter a été cuit dès le début, en fait.
Mais par contre, il y a une grande différence. C'est que l'Inter venait de perdre le titre contre Napoli. C'était très, très compliqué avec Simone Inzaghi. On savait qu'il était sur la fin. Là, Arsenal, la situation, elle est complètement différente. Ils sont dans une dynamique euphorique, ils viennent de gagner le championnat. Alors certes, certains vont dire les mauvaises langues que c'était un championnat facile,
mais ce n'est pas un championnat facile.
Il n'y a jamais de match facile, il n'y a jamais de championnat facile en première ligue.
Mauvaise langue qui veut dire ça.
Maintenant, bon, en règle générale, on l'a entendu, l'opinion publique. Ce qui me dérange aujourd'hui, j'ai le sentiment que le match, il est presque déjà joué d'avance, qu'il est presque déjà donné au Paris Saint-Germain. Attention, messieurs, parce que cet Arsenal avec Arteta est capable de souffrir, est capable d'attendre. Alors on sait que les Parisiens sont très bons, en tout cas pas si mauvais sur des blocs bas. Maintenant, si j'étais le Paris Saint-Germain, je pense que la meilleure idée qu'il pourrait avoir, c'est marquer très vite de manière à pouvoir étirer les lignes. Une dernière chose, c'est qu'Arteta, c'est quelqu'un d'intelligent. Et surtout, il y a la jurisprudence de ce qui s'est passé contre le Bayern Munich et le scénario qu'il va absolument éviter, c'est-à-dire d'avoir un match avec des lignes étirées. Et ça, Arteta, il le sait très bien. Je ne serais pas surpris que si les Parisiens ne marquent pas très vite, on ait un match très, très compliqué pour le Paris Saint-Germain.
Fabrice, on va parler d'Arsenal et de ce qu'a dit Arteta en conf dans quelques minutes. Mais restons sur le PSG par rapport à la composition probable. Tout le monde est disponible, donc il devrait y avoir un grand perdant.
Bah, pas vraiment.
Oui, effectivement, ça c'est quand même la bonne nouvelle.
Oui, mais enfin, Zaïre Emery, il est titulaire. Il peut prétendre à une place de titulaire.
Ce sera Hakimi.
Finalement, il n'y a qu'un changement, ça serait le gardien par rapport à la finale de la
Normalement, ce sera ça en tout cas. Oui. C'est vrai que, bon, pour Safonov, il n'y a absolument aucune question. Et après, c'est la question de savoir si Warren Zaïre Emery va être titulaire aux dépens d'Hakimi qui n'a plus joué, on le rappelle, depuis le 28 avril. Hein, il avait une lésion à la cuisse. Ça fait un petit moment quand même qu'il n'a pas joué, mais il s'est entraîné normalement, on le disait sur RMC Sport depuis mardi maintenant. Ça fait quand même 4 séances entières.
Et tu penses que c'est une bonne chose, ça? Parce que moi, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui s'est passé à la CAN avec un Hakimi qui est arrivé en méforme, et on a vu que ça a pris du temps avant qu'il puisse retrouver sa forme. Donc en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que tu préfères mettre un Hakimi qui a pas joué depuis un certain temps ou un Zaïre Emery qui est en train de tout casser, que ça soit au milieu de terrain ou surtout en étant arrière droit? Bon, moi, ça, c'est le petit questionnement que j'ai ce soir, c'est de me dire.
C'est une bonne question, Maxime, ouais. Mais c'est précisément parce que tu as cette question-là qu'il y a encore un doute de savoir si Warren Zaïre Emery va être titulaire ou non. Parce que si Hakimi avait déjà joué un ou deux matchs, il n'y aurait même pas de certitude,
il bouge pas.
Ouais. Après, l'histoire nous a montré que mettre un joueur à 70%,
c'est 1%, mais ça existe.
C'est pas forcément le bon plan.
Donc pour toi, Daniel, c'est évident, ça sera Hakimi titulaire.
Oui, le seul doute, c'était s'il n'était pas pleinement... rétabli physiquement. Or, les entraînements se passent bien, il est là à l'entraînement, il est bon. Et Luis Enrique, c'est terminé les surprises dans sa compo. Ça fait 15 mois maintenant qu'il n'y a plus que la compo, on peut la donner. Fabrice, ça fait partie de ceux qui s'est cassé la tête pendant des mois, essayer de trouver les compos de Luis Enrique sur sa première période. Et depuis 13 mois, il est confort. Il a fait depuis chez lui, dans le salon, tranquille. Il n'y a plus besoin d'aller demander, de se casser la tête. Tu te souviens quand tu souffrais pour trouver les compos avec Arthur et avec la bande?
Ah, c'était pas évident.
Et là, maintenant, en Ligue des Champions, maintenant ça coule de source à chaque fois.
Tu as totalement raison là-dessus. Mais simplement, pour terminer sur ce volet-là, si demain il s'avère que finalement c'est Warren Zaïre Emery qui est titulaire, ça voudrait dire que Achraf Hakimi n'avait pas de rythme et qu'il ne pouvait pas tenir, tout simplement.
Exactement.
Et donc, il n'y aura pas de risque qui serait pris pour un tel match et une telle intensité. Luis Enrique, il a été interrogé, messieurs, sur le côté meilleure attaque, celle du PSG, face à la meilleure défense, celle d'Arsenal. On écoute l'entraîneur parisien aujourd'hui en conférence de presse.
Plus que des idées différentes, je dirais des idées qui se ressemblent, mais avec des chemins différents. Parce qu'ils sont une équipe qui marque beaucoup de buts aussi, et nous sommes une équipe qui défend très bien. Je pense que les chemins pour arriver à ça, c'est différent.
40 buts inscrits pour le PSG, 6 buts encaissés pour Arsenal. On a vu des matchs open bar, notamment l'aller face au Bayern Munich. Demain, a priori, le scénario sera complètement différent. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis Tour qui commande tous les matchs du PSG.
L'Inter, jamais on aurait dit qu'ils allaient en prendre 5.
Oui, mais c'est qu'ils étaient cuits. Ils ont explosé.
Ils étaient cuits, mais on ne savait pas vraiment qu'ils étaient cuits.
Non, on a découvert très vite qu'ils étaient cuits.
L'Arsenal, a priori, comme ils ont été champions il y a 10 jours, ils ont pu bien bosser. Oui, j'imagine. Enfin, franchement, je serais sidéré que le PSG colle une tarte à Arsenal. Ouais, moi, évidemment. J'imagine presque quelque part que ça peut être un match fermé où Arsenal va essayer de contrôler le jeu, les temps de jeu et qu'ils vont pas ouvrir, parce que s'ils ouvrent, les transitions du PSG font tellement mal que ça peut devenir très compliqué pour eux.
D'ailleurs, t'as le meilleur exemple, parce que bon, faut pas oublier qu'Arsenal finit donc premier de la phase de poule, enfin de la première phase, 8 victoires en 8 matchs. Et il y a ce match contre le Bayern Munich où est-ce qu'il gagne 3-1. Alors évidemment, Bayern Munich est différent de Paris Saint-Germain, mais en tout cas, leur jeu se ressemble un petit peu.
Oui, mais effectivement. Et tu vois, si je suis Arsenal, je me base sur ce match. Le Bayern, c'était l'équipe qui faisait peur à tout le monde. Et c'est vrai, on oublie trop souvent de dire que la seule équipe qui à ce moment-là les avait vraiment battus,
c'est Arsenal. Ils avaient fait, ils avaient laissé le ballon au Bayern Munich et puis ils avaient attendu, et derrière, dès que ça s'était ouvert, ils avaient été marqués comme ça en contre. Est-ce que Arsenal va faire de la même demain? Je pense que oui, parce qu'encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, Arteta, il a vu exactement ce qui s'est passé sur le 5-4 entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, donc il sait exactement ce qu'il faut pas faire contre le Paris Saint-Germain. Donc je peux te le dire déjà, le scénario, hein. Arsenal va attendre, le Paris Saint-Germain va pousser. Après, on va voir si le Paris Saint-Germain va être en mesure de pouvoir marquer très tôt. Mais en tout cas, je pense que le match risque de basculer si oui ou non le Paris Saint-Germain marque très tôt.
Et ça fait très longtemps que le PSG ne pousse pas ou ne joue pas très haut.
Donc toi, tu t'attends à un match passif.
Si tu prends la double confrontation contre le Bayern.
Ouais.
Les buts, ils les ont mis en transition, aussi bien à l'aller qu'au retour. C'est le Bayern qui a souvent le plus essayé de contrôler le jeu et qui l'a fait.
Raison de plus pour pas faire d'ailleurs.
C'est devenu une équipe qui est très très forte en transition, pas une équipe qui envahit le camp adverse et qui s'installe. Et je vois pas, je sais pas si ce sera un match de qui prendra cette config-là demain. Je sais pas.
Donc toi, tu vois Arsenal aller chercher le Paris Saint-Germain?
Non, non plus. Ça peut très bien être bloc face à bloc, sans que réellement il y ait une équipe qui domine l'autre.
Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. Demain, évidemment, journée exceptionnelle et spéciale pour cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Messieurs, retour au direct, parce que vous le savez, ce soir, un monument a pris sa retraite. C'est Dante, le capitaine de l'OGC Nice. Il est avec nous en direct sur RMC. Bonsoir Dante, merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine qu'il y a énormément énormément de soulagement. C'est pas la saison que vous aviez rêvé, mais Nice reste en Ligue 1, c'était le plus important ce soir. Dante, est-ce que vous m'entendez? Parce que nous, on ne vous entend pas. Il est au micro normalement de Clément Brossard. Il est actuellement en zone mix. On rappelle que Dante, à 42 ans, prend sa retraite. Il a donc joué son dernier match ce soir avec l'OGC Nice. Il est sorti après l'heure de jeu à la 72e minute. Il avait pris un carton dans les dents. On a vu qu'il était notamment en sang.
Allô?
Dante, oui, vous nous entendez?
Oui, bonsoir, je vous entends.
Dante, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut, on est évidemment très heureux de pouvoir célébrer avec vous ce maintien. C'est pas la saison que vous aviez rêvé, mais l'objectif est atteint. Vous l'aviez dit la semaine dernière, je veux quitter Nice en Ligue 1. C'est chose faite, vous êtes soulagé?
Bien sûr, je suis soulagé parce que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour le club, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi sur ces 10 dernières années. Et j'ai pensé beaucoup aux tous les salariés, toutes les gens, aussi à nos supporters, les gens qui aiment le club pour la ville. Donc voilà, je suis très, très fier, très content. Et ce soir, j'espère que les gens puissent profiter et être soulagés.
Dante, on disait tout à l'heure que sur les 10 dernières années, Nice était devenu un club important en Ligue 1, 4e, 5e. Même si en Coupe d'Europe, ça se passait jamais bien, néanmoins, Nice se qualifiait dans les Coupes d'Europe. Cette année, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Ça a été une année absolument terrible. Est-ce que vous avez une explication à pourquoi vous avez dû jouer ce barrage et vous retrouver dans cette situation où vous avez failli couler, quoi? Comment on en est arrivé là?
Bah, on est arrivé là parce que si je dois tout raconter, on va pas finir aujourd'hui.
Faites une synthèse.
Mais je pense qu'à un moment donné, les gens, il fallait avoir une meilleure vision, il fallait avoir savoir que le football. En fait, moi j'ai une thèse où je dis toujours que le football, il est injuste et il est ingrat. C'est-à-dire que dès que tu commences pas à faire les choses qu'il faut, le basique, les choses que il fait un club marcher, une équipe marcher, tu auras des problèmes et tu seras puni. Parce que le même ballon que tu mets au fond pour toi, c'est le même ballon qui va rentrer sur ton but. Et ça, le football, c'est la même chose. J'ai parlé notamment, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y avait une grande qualité. C'est qui sont arrivés, des joueurs avec moins d'expérience. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Après,
vous voulez dire le recrutement a été raté?
Non. Je dis par rapport à une vision de qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je parle de tout un peu parce que malheureusement, les joueurs qui sont partis, ils avaient un certain niveau. Et ceux qui sont arrivés, ils atteindront un très bon niveau aussi, mais ils n'étaient pas prêts peut-être.
Donc pas là, prêt maintenant, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, et donc là, ça a commencé à déclencher de mauvais résultats. On a perdu la lucidité. On a perdu la patience, un avec les autres, que ce soit joueurs, staff, direction, supporters. Donc, il y a un moment donné qui a manqué énormément de lucidité dans le club. Il y a manqué une vraie personne pour nous mettre une vraie direction.
Bah, les dirigeants, alors c'est les dirigents qui sont trompés, président, directeur sportif. Si vous dites qu'il manquait une personne pour indiquer une vraie direction, qui fait ça?
Mais moi, je vous dis comme ça, mais je pense que c'est un global. C'est global. Il faut que le staff il prenne ses responsabilités, les joueurs prennent ses responsabilités, les supporters prennent ses responsabilités. Et à un moment donné, personne ne prend ses responsabilités.
Et là, tu parles des deux entraîneurs, c'est-à-dire de Francaise, mais aussi depuis l'arrivée de Claude Puel. Je trouvais l'arrivée de Claude Puel intéressante. Sur les premiers matchs, j'ai vraiment vu un changement de visage. Et c'est vrai qu'il y a eu 5, 6, 7 matchs où j'ai senti des joueurs niçois qui avaient presque lâché. Et là, assez incroyablement parlant, c'est quand je vois la réaction des joueurs sur le but, où est-ce que vous êtes tous partis chercher Claude Puel, votre entraîneur, à un moment donné, je me dis que Claude a réussi son pari. Mais c'est vrai que c'était pas forcément flagrant sur certains matchs. Donc ma question, elle est suivante, c'est est-ce que Claude a vraiment révolutionné un petit peu le vestiaire? Alors comment il s'y est pris? Voilà, à quel point Claude Puel a été important vraiment dans le maintien de l'OGC Nice cette saison?
Bah, bien sûr qu'elle a réussi son pari, parce que là, il a réussi le maintien. C'est quelque chose que c'était sa mission à lui. Il a réussi aussi à nous amener en finale des coupes. C'est aussi une mission qu'on l'a pas donnée, mais il nous a fait ça en plus. Donc voilà. Après, il a trouvé un environnement que c'était pas simple. Qu'il a trouvé beaucoup de joueurs qui manquaient aussi de, on va dire, de confiance et aussi un environnement que il y avait pas trop de confiance sur notre équipe. Donc voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il faut pas commencer à chercher qui c'était, quoi, le fautif. Non, j'ai encore une fois, je vous dis simplement que il fallait avoir un moment qu'on s'assoit tous avec la lucidité, du calme, et qu'on mette un objectif devant nous, qu'on focalise sur une chose pour le club et personne qui pense à soi. C'est
est-ce
tout.
Que Dante, est-ce que vous avez au cours de toutes ces années, est-ce que vous avez compris la direction que voulait donner au club Ineos? Nous, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent faire avec Nice. Bah, est-ce que vous avez compris?
Bah, bien sûr que non. Parce que ce sont des gens qui connaissent quand même le sport. Ce sont des gens qui ont des moyens. Et je pense que à un moment donné, la communication, elle était moins bonne, je trouve. Parce que les supporters niçois, ils sont des rêveurs. Ils rêvent voir notre club en Champions League. Et quand ils arrivent avec un certain discours, bien sûr qu'ils attendront ça. Et à la fin, c'est pas ça qu'ils ont fait. Donc, tu commences à polluer l'environnement, à avoir beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations, et aujourd'hui on arrive où nous sommes. Moi, encore une fois, je pense que ça serait beaucoup mieux de venir, dire écoutez, on va avancer peu à peu, petit à petit, et puis voilà, on va voir, et c'est tout. Au lieu de dire que on va arriver pour concurrencer Paris, par exemple. Donc ouais, je pense que. Donc pour nous supporter, à un moment donné, on est 4e, 5e, c'est une frustration quand même. Là, cette année, on n'était pas bien du tout. Donc, ils sont encore plus frustrés. Donc, ça crée un environnement assez compliqué pour qu'on puisse travailler. Moi, je pense que c'est un des gros problèmes qu'on a eu. Et je souhaite, surtout pour le club, qu'à partir de l'année prochaine, on dise les choses claires.
Alors, l'année prochaine, justement, vous allez aller au Bayern.
Je ne sais pas encore. Attends.
Ah, bon, d'accord. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à Nice dans un rôle de directeur sportif?
Non, franchement, cet rôle, ça ne m'intéresse pas.
C'est quel rôle qui vous intéresse, vous?
J'ai rêvé de rester sur le terrain, travailler soit avec une équipe des jeunes qui a un bon championnat, soit être assistant chez les pros. Donc voilà.
Ah, vous voulez être sur le banc, d'accord. Et si vous allez au Bayern pour vous occuper des jeunes, vous allez travailler avec Ribéry ou pas alors, avec Franck?
Non, je ne sais pas encore si je vais au Bayern. Je n'ai pas parlé avec Franck. Donc l'information, à mon avis, elle n'est pas très claire.
Merci beaucoup, Dante. Bravo pour votre belle carrière. On rappelle que ce soir, vous prenez votre retraite à 42 ans et que vous avez donc joué 10 ans pour l'OGC Nice. On suivra évidemment la suite, peut-être au Bayern Munich.
Oui, Dante, encore toutes nos félicitations vraiment pour la très belle carrière que tu as eue.
C'est un grand personnage de la Ligue 1 qui s'en va. C'est quelqu'un que tout le monde adorait. Exactement. Ce gars-là, il fait l'unanimité. Ouais.
Et même à l'intérieur des vestiaires, moi je sais que j'ai beaucoup parlé avec Christian Wilson, qui était mon entraîneur à New York, qui m'a dit le plus grand bien que de toi, et en particulier la manière dont tu travailles, l'exemple que tu es pour les jeunes, et je suis moi-même un ancien footballeur, et vraiment bravo parce que tu en as inspiré plus d'un, dont moi. Voilà, je te souhaite plein de belles choses. On te souhaite plein de belles choses pour la suite de ta carrière.
J'ai une dernière question, Dante. Déjà, pas trop peur de la retraite, Dante, parce que c'est un grand vide.
Ben non, il va bosser. Hein.
Non, il ne l'a pas confirmé.
J'ai pas trop de peur parce que j'ai joué assez des années, et même si j'ai resté un an sans travailler, ça va aller quand même.
Dante, une question, le Brésil et la Coupe du Monde, alors, ça va donner quoi?
Bah, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui misent sur nous, mais je suis confiant quand même. Je pense que nous avons un bon effectif et que l'équipe peut quand même progresser pendant la compétition et on peut arriver loin quand même. Et
avec ou sans Neymar?
Avec, il est là, donc.
Il est là, il est tout le temps blessé, il est là, ça va être plus le bordel qu'autre chose.
Messieurs, on doit.
Oui, on vous écoute la réponse.
Oui, mais c'est un joueur qui s'impose, c'est un joueur qui a le respect de tout le monde, qui a l'admiration de tout le monde. Donc, je pense que c'est important qu'il soit là avec l'équipe nationale.
Merci beaucoup, Dante, d'avoir été avec nous. Un grand merci à Clément Brossard qui nous a permis d'être en direct avec Dante, le capitaine de l'OGC Nice qui part à la retraite à 42 ans. Un grand merci à Virginie de la communication également qui a rendu cet entretien.
Oui, on embrasse Virginie.
Voilà, bon, l'embrasse. Sympa, on l'a vu en zone mixte. Virginie, elle doit être très soulagée du maintien de Nice en Ligue 1. Messieurs, quelques informations parce qu'on n'a pas eu le temps. Concernant, vous savez, Arsenal, du côté du PSG, tout le monde est là. Et du côté des Gunners, Timber, qui était absent depuis le 14 mars dernier, est apte à jouer demain. Il est en pleine forme pour débuter selon l'Espagnol. Vous y croyez?
Non, je pense que ça serait Mosquera plutôt.
Ouais, je pense que c'est plutôt ça que nous avait dit Julien Laurent. Donc,
On verra, mais ça serait plus logique d'avoir Mosquera.
On rappelle que Ben White, lui, est bien forfait. Il sera également absent pour la Coupe du Monde. Massara n'est plus le directeur sportif de l'AS Rome. Lui, il fait une petite année puis s'en va.
Ouais, mais il retrouve du taf.
Ouais, et puis il prend l'échec surtout. Il a raison.
Ça. Il était resté une année à Rennes et donc là, pour sa deuxième expérience à l'AS Rome, il est resté qu'une année.
Ouais, peut-être le prendre à Nice, comme ça, tu prends un an à Nice.
Mais écoute.
Ouais, le directeur sportif, il se recasse comme ça. Écoute, voilà.
Pourquoi pas? Messieurs, on rappelle effectivement également la très triste nouvelle, c'est Brian Bergugno qui nous a quitté. On en a parlé tout à l'heure avec Edouard G. Évidemment, on pense à sa famille et à tous ses proches, Brian Bergugno qui
et
avait
tous les supporters de l'OL parce que c'était quelqu'un que les supporters de l'OL adoraient.
Ouais, il avait notamment gagné trois titres de champion de France avec l'OL, son club formateur. Avant de se quitter, un dernier petit tour sur la terre battue parisienne.
Il est serré ce troisième set.
Eric Salio. Troisième set.
Il y a encore la possibilité de prolonger le plaisir et cette partie, puisqu'il y a 2-7-0 Zverev, certes, 6-4, 6-3. Mais Quentin s'accroche dans le troisième, il y a 5 jeux partout. C'est l'Allemand qui est au service.
On est à bonne nuit, Antoine. On va partir, tu vas rester là, mon vieux.
Il y a Sarah Piskowski qui a quitté la loge pour nous rejoindre parce qu'on a le podcast derrière. Mais finalement, on va peut-être retourner dans la loge des joueurs pour pousser Quentin au bout de la nuit jusqu'à 3h du matin.
On te laisse avec Karine. Karine, tu restes, de toute façon.
Bien sûr. Voilà. Oui.
Allez, ciao tout le monde.
Merci beaucoup, Eric. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. On vous rappelle que c'est donc Nice qui reste en Ligue 1. Saint-Etienne n'a pas réussi à renverser les Niçois et donc vivra une deuxième saison consécutive en Ligue 2. Merci à Flavien et à Daniel qui étaient aux manettes de l'émission. Demain, journée historique et exceptionnelle sur RMC en vue de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Coup d'envoi de cette finale à 18h. Belle nuit à tous.
RMC, l'after foot.